Dan Pou.
Bonjour tout le monde, ça la gang.
Hey.
Salut.
Bon.
Bonne fête.
Merci. Ben bonne fête. Là, c'était hier.
Ah, c'était hier.
On souhaite pas. C'est pas comme bonne année. Là, on souhaite pas ça pendant deux semaines. Là.
Ben 50, c'est quand même pas rien.
Je pensais que ça allait durer toute la semaine.
T'es pas obligé de le répéter. Non. Merci à ceux et celles d'entre vous qui êtes venus me serrer la pince hier au bistrot L'Atelier. Ça a été fort apprécié. Belle soirée avec bien du monde. Je veux juste dire que j'aime beaucoup ces activités-là. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'ont texté hier soir. J'ai eu là, minimum une dizaine de... soit des textos, soit des sur Messenger, soit des courriels, soit des... Les gens disent... « Ah, oh, j'aurais aimé ça y aller, mais j'étais un peu gêné. » Puis je les comprends, les auditeurs. Il y a toujours des auditeurs. Puis même les gens, quand ils arrivaient hier, ils étaient un peu timides. Puis c'est normal, parce que c'est comme si tu t'invites dans un party que tu connais pas personne. C'était grosso modo, à peu près ça hier. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient souhaité être là puis qui n'ont pas eu le courage de venir. Mais dites-vous que la prochaine fois, il faut que vous preniez votre courage à deux mains puis vous veniez. Parce que c'est tellement intéressant. Hier, là, nous autres, on fait de la radio, mais on fait de la radio pour vous autres d'abord et avant tout. Puis chacune de vos histoires de vie, ce que vous vivez dans vos réalités, dans chacun des quartiers de la ville, ben nous autres, là, ça nous alimente, pis ça nous permet d'élargir nos horizons, puis de vous interpeller, puis d'être plus interactif. Fait que, tu sais, la radio, il faut qu'elle vous ressemble aussi, là. Et là-dedans, ben c'est le fun. Quand vous prenez le temps de venir, de nous jaser, moi, je trouve que c'est une occasion extraordinaire de se ressourcer. Puis ma fête, ben c'était un prétexte. Moi, je le vois comme
ça.
Fait qu'on va continuer d'en faire. Moi, j'aime ça, jaser avec le monde. Et j'espère qu'on va avoir la chance de se recroiser. Puis ceux et celles qui m'ont écrit parce qu'ils étaient trop timides, ben j'espère que la prochaine fois, là, vous allez avoir le guts, vous allez prendre votre courage à deux mains, puis vous allez venir parce que c'est fort agréable. Puis pas juste pour nous autres, en passant. Il y avait du monde hier qui se connaissait pas, un et l'autre.
Ben, c'est ça qui
se sont parlé entre eux autres beaucoup aussi.
Ben oui.
Là. Fait que ça a été... Merci aux gens de l'atelier de nous avoir accueillis. C'est toujours très agréable d'aller là.
Cocktail de feu qui avait été fait
le cocktail
pour l'occasion.
Écœur, hein?
Ah, ben ouais.
C'était un peu vanillé.
Ouais,
là. C'était vraiment bon, les cocktails qu'ils ont préparés.
Ils n'ont pas fait le jam aux ans?
Non, ils ont fait...
Non, c'était autre chose.
C'était quoi, non? Mais je sais pas c'était quoi le nom. Mais c'était vraiment... C'était un cocktail un peu exotique. Ça faisait tropical, notre affaire.
Ouais.
Fait que c'est
très,
ça, c'était la soirée d'hier. Évidemment, hier, on a beaucoup parlé pendant l'émission, puis même hier soir, les gens nous en parlaient, là, de ce qui se passe du côté de Paris avec l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu rassurés dans le sens où on nous apprend qu'il y a quand même une partie importante qui a été sauvegardée. On nous apprend aussi que la reconstruction va être en grande partie possible. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec notre collègue Philippe Bonneville qui est sur place. Hein. Il a pris l'avion hier après-midi dès que le feu était encore là. Puis lui, il sautait dans un avion puis il s'en allait à Paris pour être sur place pour pouvoir nous parler de ce qui se passe, de ce qui se vit là-bas. Donc, on a quelqu'un là, de Cogeco qui se trouve... devant la cathédrale, puis on va essayer de faire le point là, sur non pas ce qui se passe par rapport au feu, parce que je pense que ça, là, tout est correct aujourd'hui, tout est maîtrisé, mais c'est quoi l'après?
Qu'est-ce qui reste surtout?
Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on veut préserver, qu'est-ce qu'on peut préserver, qu'est-ce qui a été sauvegardé? Donc on va refaire le point là-dessus un peu plus tard dans l'émission.
Éric, je vais t'interrompre juste un instant parce qu'il y a l'autoroute 40 qui est fermée en direction ouest à la circulation à la hauteur de la route Jean Gauvin dans le secteur Saint-Augustin de Desmaures. Et là, ben, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un conducteur d'un véhicule qui aurait été happé. Le conducteur, possiblement, d'un camion citerne. Il serait tombé en panne et donc l'homme, visiblement, la personne serait sortie de son véhicule et ça, c'est à ce moment-là que la personne aurait été frappée. Donc, je vais aller aux informations, mais pour vous dire aussi, pour ceux qui sont actuellement sur l'autoroute 40, là, qu'ils vont devoir prendre des routes alternatives.
En direction ouest?
Direction ouest.
Okay. Oui, là, ils disent que c'est quoi, c'est la sortie Legendre, j'ai bien compris. En tout cas, moi, c'est ce que
sortie
les autres gens...
Sortie Jean-Gauvin, en fait, Gauvin. Les gens vont prendre pour faire le détour.
Là, on me dit que c'est ça. Présentement, il y a une file de plusieurs kilomètres, là, mais on va suivre ça pour vous autres, savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive quand on reste pris en panne sur une autoroute? D'ailleurs, c'est une bonne question. Je me suis toujours demandé s'il faut rester dans son char et attendre qu'une dépanneuse arrive ou une police, ou s'il faut sortir.
Ben moi, mon réflexe serait de rester à l'intérieur, parce que s'il y a un impact, je me dis que t'es peut-être un peu mieux protégé. Ça dépend du contexte.
T'es pas mieux de t'en aller loin de la... T'es pas mieux de laisser ton char là, puis toi, t'en aller plus, te reculer un peu plus loin de l'autoroute?
Ouais, mais là, en même temps, c'est pas un automobiliste normal.
Non, c'est un
monsieur
camion,
qui est sur la route à longueur d'année. Il est peut-être arrivé un bris. Les gars, ils sortent de l'Uvan, eux autres.
À journée longue.
Ouais, c'est ça, tu sais, fait que...
Mais la question se pose quand même.
Oui, oui, absolument.
Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, mon réflexe personnel, C'est sûr que surtout, là, on n'est pas en hiver, là, mais rappelez-vous, cet hiver, on a eu beaucoup de carambolages, hein, autant en région que même en s'en allant vers l'est, à l'ouest. Quasiment toutes les semaines, on parlait des carambolages monstres qu'il y avait sur une autoroute ou sur l'autre. Puis on se demandait tout qu'est-ce qu'il fallait faire quand t'arrives puis que tu te fais rentrer dedans puis qu'il y a 25 chars qui sont pris. T'attends-tu que tout le monde soit sorti de là ou tu sors de ton char puis tu t'en vas pour pas qu'il y en ait 25 autres qui arrivent par en arrière puis qu'il y en ait un qui finit
par te crabouiller. Toi, tu parles en cas de carambolage,
ben,
là,
non,
par
mais,
définition.
Non, de façon générale.
Parce que si le trafic arrête, il n'y a pas de raison que tu quittes ton auto.
Non, mais si toi, t'as un bris,
ouais.
T'arrêtes. Ton auto, elle tombe en panne, paf, t'es sur l'autoroute, tu fais quoi? Tu sors-tu ton char ou tu restes là?
Moi, je pense que ça dépend des alternatives que t'as. L'autre fois...
C'est du cas par cas, dans le fond.
Ben, je sais pas. Moi, mon réflexe serait de rester dans la voiture. Sauf si, dans le cas, l'autre fois, il y avait quelqu'un qui était un petit peu en travers du chemin. Là, ceux qui arrivaient par la gauche pouvaient frapper la voiture. Elle avait comme fait une sortie de route. Et je me suis posé la question, je me suis dit, moi, si je suis le gars qui est à l'intérieur de l'auto, est-ce que je reste là? Parce que... Il était comme à risque là, d'être frappé. Mm-hmm. En même temps, sinon, c'est dans le banc de neige, c'est peut-être pas mieux non plus. Là.
Puis c'est sûr qu'il y a des places où, pour moi, c'est un no-brainer. T'sais, si je reste pogné sur le pont Pierre Laporte, je sors pas de mon char.
Non, c'est ça.
Parce que là, tu n'as nulle part où aller.
C'est ça.
Mais s'il y a un champ à côté, tu es sur le bord de la 20 ou de la 40.
Moi, je sortirais. Si
moi
je
aussi,
peux,
je m'en irais dans le champ.
Ouais, ben.
Moi, je prendrais le champ. Je m'en irais le plus loin possible de l'autoroute. Là, il y a beaucoup de gens qui nous répondent. Là. Si t'es en panne, tu dois absolument demeurer dans ton véhicule jusqu'à ce que quelqu'un arrête ou tu appelles directement des secours. Il y a des gens qui nous parlent des corridors de sécurité. Ça, c'est l'autre truc.
Ouais.
Parce qu'il faut laisser... Quand on voit une auto arrêtée ou immobilisée ou en panne ou qu'il y a une crevaison, on n'est pas de quoi, là. On est supposé prendre, tu sais, mettre notre clignotant et s'en aller sur l'autre voie puis la contourner. Il y en a, c'est sûr, qui fraudent les chars. Là. C'est sûr que ça, c'est pas sécuritaire.
Ben
je comprends aussi que tu t'en viens des fois à 100 km/h, il y a un auto à ta gauche, puis c'est pas toujours évident de sacrer les breaks puis te faire rentrer dans le cul par le gars dans l'arrière. Non, c'est pas mieux ça non plus. Là. Fait que c'est peut-être du cas par cas, mais c'est dur à... T'sais, c'est une fraction de seconde. Hein. Faut que tu prennes ton décision.
Une question d'instinct, peut-être.
Puis... Qu'est-ce que tu fais quand t'es sur bord? Moi, tu mets les quatre clignotants, t'as pas le choix. Ou tu mets juste ton clignotant comme si tu tournais? Tu mets tes quatre flashers, je pense. Hein?
Ben.
Ça, c'est fait pour ce type de situation-là. Quand tu as les quatre clignotants, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis arrêté, mais il y a un problème.
Mais oui, c'est ça. C'est un message. Parce que tantôt, tu disais rester dans votre auto. Je te jure, on va faire le test. Va-t'en sur Charest, là.
Oui.
Là, c'est la 40, un peu plus loin, mettons, là. Ou sur la 20, peu importe. Installe-toi à droite. Pas de clignotant sur ton auto. Reste dans ton auto parce que on fait semblant que tu as manqué d'essence, mais tu n'en as pas manqué, OK?
OK.
Et ça se peut que ça prenne 3-4 heures avant que quelqu'un arrête, là.
Ah, c'est sûr.
Ben oui, c'est sûr.
Puis l'autre truc, on voit souvent du monde qui change le pneu sur le bord de l'autoroute.
C'est
souvent quelqu'un qui fait un flat, là, ça arrive, le gars, il sort, puis il commence à jacker son char, puis il sort son pneu de sécurité, puis il remplace sa roue.
Il a le droit.
On voit beaucoup de monde faire ça.
Oui.
Mais c'est sûr que c'est pas une bonne place de faire ça, puis c'est sûr que c'est pas sécuritaire, mais en même temps, tu peux pas rouler pas de
pneu. Ben non.
Fait que le...
Si tu peux te rendre dans l'accotement, évidemment, là, tout est correct.
Moi, c'est arrivé que mon chum avait vu la voiture en arrière de lui arriver, là. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est vraiment attaché solidement puis est resté dans son auto.
Il savait qu'il allait se faire rentrer dedans?
Oui. Mais tu sais, en étant...
C'est pas paniquant, ça?
C'est parce que s'il était sorti, il était fait,
il
là.
Il se tuait.
Fait que tu sais, tu dis, OK, c'est beau. Faut que tu aies confiance en ta voiture, mais aujourd'hui, il y a des coussins gonflables qui sortent de partout, là, aussi. Là. Tu sais, les voitures sont plus...
Tu te poses une autre question, là. Quand tu vois que quelqu'un va te rentrer dans le cul, t'es immobilisé, puis le char s'en vient à toute vitesse en arrière de toi, puis c'est impossible qu'il arrête. Dans le cours de conduite, il nous avait montré qu'effectivement, la première chose, c'est faut que tu t'assures d'être attaché. Je pense qu'il faut que tu tiennes le volant, puis tu tiens un petit peu droit. Hein. Tu essaies de te rentrer dans le... pour essayer de résister le plus possible au choc. Parce que c'est dangereux pour le dos, puis le cou, cette affaire-là. Là. Ça peut te donner un méchant mal de cou, puis un méchant mal de dos, puis ça peut
avoir
être chronique.
Moi, j'ai déjà évité un accident sur le pont Champlain. La personne en avant de moi, elle freine super rapidement.
OK.
Puis là, je sais pas comment je suis arrivé à faire ça, je te le jure. Honnêtement, je pourrais pas le refaire. Mais j'ai géré celui d'en arrière dans le rétroviseur, puis celui d'en avant qui a freiné trop vite.
Comment t'as fait ça?
Ben, parce que mon premier réflexe, quand je l'ai vu qui a freiné super rapidement, c'était de regarder dans le rétroviseur puis de voir que l'autre, il me rentrait dedans. Ça fait que j'ai freiné quand j'ai vu le gars d'en avant freiner. J'ai regardé, je l'ai vu arriver, j'ai lâché le frein pour avancer encore. J'ai comme géré les deux, mon vieux. Une espèce d'affaire incroyable qui t'arrive dans une vie, là, il n'est rien arrivé. Puis quand tout ça a fini, hey, vous me rappelez ça aujourd'hui, quand tout ça a fini, puis que pour la dernière fois, j'ai regardé dans le rétroviseur. Je me souviens, la fille, elle avait les deux mains sur la tête en disant... Elle devait pas y croire. Elle, dans sa tête, elle me rentrait dedans.
Elle était sûre qu'elle venait de
refaire... Puis tout à coup, elle a dû voir l'auto qui était comme... Que, Comprends-tu? Je gérais ça, moi, là.
Elle savait qu'elle n'avait pas d'espace.
Je me souviens de l'avoir vu les deux mains sur la tête en train de faire « Oh my God! » J'ai aucune idée comment j'ai fait. Miracle.
Il y a quelqu'un qui nous écrit « Ma chum de fille a déménagé de Sainte-Julie à Québec. La première journée à son travail, elle a eu un problème au début du pont Pierre-Laporte. C'était au mois de mars. Ça y a pris 3h30 avant que quelqu'un s'arrête. Elle avait pas de cellulaire. » Tu sais, c'est ça que tu disais tantôt. T'attends combien de temps?
Oui.
Elle a attendu 3h30.
Oui.
Et hey boy, il y a quelqu'un
Je sais pas si tu te souviens de la pub de Barbecue Québec qui avait fait un peu ça un an peut-être.
Oui.
Il est arrêté sur le bord du chemin, le véhicule avec le capot ouvert, ça boucanait. Puis là, il se demandait qui va venir nous aider, exact, puis combien de temps ça va prendre. Puis la personne qui arrêtait pour les aider gagnait un barbecue.
Oui, je me souviens de ça, c'était leur promo. Ouais, c'est bon. Il y a quelqu'un qui dit que les clignotants d'urgence, un enfant de 10 ans, c'est ça, là, comment ça se fait que je sais pas ça. Non, je comprends, mais c'est juste que quand... Pour indiquer que tu tournes à droite. Parce que, évidemment, tu essaies de te mettre dans l'accotement le plus possible. En plein milieu de la voie, là. Mais à ce moment-là, tu indiques quand même ta sortie de route. Tu te mets pas ces clignotants. Il y a quelqu'un qui dit plus tu te tiens droit, plus tu crispes, plus c'est dangereux quand que quelqu'un qui va te rentrer dedans. Pas pour rien que les gars qui ont bu, ils s'en sortent toujours mieux parce qu'ils sont plus mous. Donc, ils absorbent le choc. Aïe, aïe.
Ce qu'on dit, c'est que si on raidit. Lors d'un choc, on l'absorbe moins.
Ton système nerveux, ça...
Ben, c'était raide, puis là, chaque vibration rentre plus. Tandis que si t'es plus mou, mais ça, c'est ce qu'on dit, tu sais, c'est-tu...
Y a quelqu'un qui travaille sur la route, qui nous dit que les caméras puis le ministère des Transports du Québec, là, parce que je fais plus que 400 km par jour, je peux vous confirmer qu'ils sont rapides d'intervention pour venir sécuriser en se positionnant à l'arrière avec des flèches et des gyrophares quand il y a un problème, là. Donc, lui, il pense pas, mais la fille qui nous a écrit tantôt, qui nous dit qu'elle attend 3h30, c'est quand même pas... Puis le pont de Québec, je pense que c'est aussi un endroit qui est vérifié, ça doit bien être là. Enfin, quoi qu'il en soit, je reviens donc, avant ce breaking news, à ce qui s'est passé hier soir. Hier, je sais que j'ai ça là que j'aurais dit, parce qu'il y a du monde qui sont présentés à l'atelier au cours des derniers jours en disant « Éric nous a dit de voir le hockey ici », puis finalement, il n'y a pas de hockey. Je veux juste préciser que, puis on en a parlé d'Anne aussi quand c'est arrivé, c'est parce que maintenant, les bars sont obligés de payer en fonction du nombre de places, même si c'est pas des bars dédiés au sport.
Oui.
Ils payent pas le câble comme vous et moi, là, à 80$ par mois. Ça lui coûte des centaines, voire des milliers de dollars par mois en fonction du nombre de places qu'il y a dans le restaurant.
Oui.
Et des restaurants qui sont pas spécialisés dans le sport. L'atelier, c'est un exemple, mais il y a des centaines d'autres restos à Québec. C'est devenu inabordable pour eux présenter des matchs de hockey.
C'est moi, en fait, qui ai dit, on va-tu avoir une télé pour regarder Blues contre les Leafs?
Exact.
C'est ça.
Fait que...
Mais c'est ça, hier...
ils présentent pas, eux autres.
Non, mais c'est comme plein d'autres restaurants à Québec, il y a de moins en moins de restos qui présentent les matchs. Mm-hmm. Puis avec le fait que les Canadiens ne font pas les séries, ils peuvent vous dire que ces restaurants-là, d'après moi, ils regrettent pas de pas payer des milliers de dollars par mois parce qu'ils auraient perdu s'arrêter de la peur perte. Mais quoi qu'il en soit, hier, même si le Canadien ne fait pas les séries, il y avait du maudit bon hockey. J'ai regardé une couple de games hier, Dan. Toronto-Boston, je pense que c'était la meilleure game de la série à date.
Ouais, t'es d'accord avec moi? Ouais, il y avait de l'ambiance, ça jouait. Puis les Leafs ont profité d'avantages numériques, mais tu sens que la ligne est mince. Tu sais, j'ai pris Toronto pour gagner la série, là. Puis avec le résultat d'hier, je peux pas partir en pub et dire, hey, c'est réglé, ils vont les battre. Non, non. Boston, c'est une très bonne équipe de hockey. Toronto a profité de ses chances hier, mais tu sens que les Leafs sont vulnérables. Je serais pas surpris qu'on joue 7 matchs dans cette série-là.
Non, c'est sûr que ça va se... Puis là, surtout, Kadri a été suspendu pour
le reste de la série.
Ouais,
lui, il n'en jouera pas. Dans le fond, il voulait être certain qu'il ne recroise pas Jake DeBrusk cette année. Fait qu'il est suspendu 3, 4 ou 5 matchs, dépendamment combien de temps ça va durer la série. L'autre match qui m'intéressait, moi, hier, c'est l'Avalanche contre les Flames.
Aïe.
Si Mike Smith, le gardien des Flames, n'avait pas été en forme hier, sais-tu, ça aurait été quoi le pointage final?
Ça aurait été un désastre.
12 à 1.
Ben,
c'était catastrophique.
Tabarouette.
Il y avait pas les Flames se sont pas présentés à la game hier. Alors que la première game, ça a été exactement le contraire. Je comprends pas ce qui est arrivé.
Il a été bon, puis ça a fini 6-2. 56-29, les tirs au but.
Mon Dieu.
Nathan MacKinnon, hier, là, il avait l'air d'un... Colin, ça serait quoi mon expression? Il avait l'air du meilleur joueur de la Ligue nationale, tiens. On va le dire de même.
Ouais, il avait l'air d'un joueur des ligues majeures qui joue dans une ligue junior.
C'est ça.
Grosso modo, c'est à peu près ça.
Il patinait, il contrôlait le jeu. Nathan MacKinnon, il était tout seul, sa patinoire.
My God.
Il y a eu une belle histoire dans ce match-là, Eric, parce que je t'ai parlé hier après-midi d'un jeune qui avait gagné le trophée de meilleur joueur aux États-Unis dans les universités américaines.
Oui.
Son nom, c'est Kyle McCarr. Hier, il jouait un premier match, puis il a marqué un but. C'est la première fois qu'un défenseur, à son premier match le joue en série et marque un but.
Okay.
C'était déjà arrivé pour d'autres, mais c'était des attaquants. C'était pas un défenseur. Lui, dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est le septième à faire un but à son premier match en séries éliminatoires, mais c'est le premier défenseur. L'Avalanche mène 2-1 cette série-là. Je dirais contre toute attente.
Oui.
Dans le match Caroline-Washington...
Attends une minute. Gaudreau, qui est le meilleur scoreur de Calgary, il n'est pas là.
On le voit pas.
Et moi, je l'ai pris dans mon pot. Je suis assez déçu. C'est un des bons joueurs de la Ligue.
Oui.
Et là, ils sont rendus, ils ont 3 matchs de jouer, puis il n'est juste pas là.
Touche pas à puck.
Ça me fait penser à l'équipe de Tampa Bay au complet.
Ouais.
D'ailleurs, c'est à soir que ça se finit, ça?
Peut-être. Okay, peut-être, je sais pas.
Un peu plus tard. Okay.
Ouais, j'ai une bonne idée pour ça. Je vais t'en reparler du défi que je me suis moi-même lancé. Je sais qu'on fait pas des sports, là, mais je veux juste te faire le résumé parce qu'il y avait 4 matchs hier. Les Hurricanes ont complètement dominé les Capitals de Washington. Hier après-midi, tu m'avais dit, ah, ça m'intéresse, ça. Je dis, ben, oui. Bon, les Hurricanes, oublie ça. Ça finit 5-0.
Ils peuvent revenir, bon, les Hurricanes. Non, c'est pas fini, cette série-là.
Le
deuxième match, c'est fini en prolongation aussi, là. Rappelez-vous que c'est pas si à sens unique que ça, cette série-là, là.
Puis 45-18, les tirs au but, pour la Caroline. Pas pour Washington, puis le goaler a tout arrêté.
Ouais.
Ils ont outrageusement dominé. Évidemment, ce qui retient l'attention dans ce match-là, c'est un combat entre un poids lourd et un poids plume. Alexander Ovechkin, qui a 33 ans, qui fait 6 pieds, 3 pouces, 235 livres, il s'est battu avec Zvechnikov. Zvechnikov, là, pour vous situer, le premier choix dernier repêchage, ça a été le défenseur Rasmus Dahlin de Buffalo.
Oui.
Le troisième, ça a été Coca avec le Canadien. Entre les deux, ça a été Zvechnikov. Deuxième choix du dernier repêchage. Le kid de 19 ans, 6 et 2, 195. C'est deux Russes. Fait que tu comprends-tu qu'il y a un Russe qui était plus gros puis plus expérimenté que l'autre. Ovechkin ne se bat pas souvent, puis là, il s'est battu contre un jeune de 19 ans. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un jaune, il n'aurait pas dû faire ça. Puis il y a des gens comme Eric qui disent, voyons, le jeune, il a pensé à quoi? Il a 19 ans, il sait bien qu'il va manger une volée contre Ovechkin, il fallait pas qu'il se batte. Le résultat, c'est que ça relance le débat sur l'importance des bagarres au hockey, et le jeune a une commotion cérébrale aujourd'hui.
Pas vrai.
Il a fait un Byron de lui.
Il est tombé comme une poche de patate.
Qu'est-ce qu'il a pensé?
Ça a glace.
J'étais gant contre Ovechkin.
Ça a fait ça même.
Le dernier qui a eu cette bonne idée-là, c'était Byron, puis il est arrivé à la même affaire, il a eu une commotion cérébrale.
C'est ça.
Un gars de 19 ans, c'est pas un pré-ado, là. Un gars de 19 ans qui joue dans la Ligue nationale à 195 livres, c'est un homme, là.
Oui, mais il n'a pas l'expérience des combats.
Non, je comprends.
Il n'est pas là pour ça parce que c'est un joueur talentueux.
Il a 40 livres de moins que l'autre en face de lui.
T'sais,
non, ça marche pas, là.
Honnêtement, je ne sais pas à qui la faute. Est-ce qu'Ovechkin aurait pu dire au kid, non, faut pas se battre?
Mais non,
dans le feu de l'action. Il y a des gens qui mettent ça sur... Parce que j'ai posé la question sur la page Facebook de l'avant-match.
Ouais.
Il y a des gens qui disent, ouais, dans le feu de l'action, tout peut arriver. Mais là, dans le feu de l'action... Je trouve que le feu de l'action, le dos large un peu comme la pénurie d'emploi. Là.
Mais je pense que... Ovechkin n'est pas blâmé. Le gars, il veut se battre. C'est comme, tu veux te battre, OK, mon homme m'a donné une leçon.
Mais t'es pas obligé, c'est pas un combat de boxe, Eric.
Non,
Alexander
non,
Ovechkin, c'était peut-être l'idole du kid... Quand le kid avait 8 ans.
C'est des Russes. Là, on se comprend que c'était deux Russes. Là.
Puis Ovechkin, c'est le meilleur Russe à avoir joué dans la Ligue nationale.
Ever.
C'est une bonne question parce que, sérieux, t'as 19 ans, t'es dans la Ligue nationale, tu dis pas non à un combat si quelqu'un t'affronte. C'est en partant. Là.
Pourquoi?
Ben, pourquoi tu joues ça?
Ben oui.
Ben, souvent.
Un gars qui dit non, je veux pas me battre.
Ouais, moi, ça... si j'avais été son coach hier de ce kid-là, je serais en furie qu'il soit battu.
Non, je suis d'accord, je trouve ça. Je dis pas qu'il faut qu'il se batte, mais c'est rare en tabarouette que le gars.
Mais tu prouves rien quand tu te bats, là. C'est plus comme dans le temps. C'est plus, je vais faire ma place, les gars vont trouver que j'ai du courage. Puis c'est plus ça, là. On n'est plus là dans le hockey, là. Avant ça, il y a 20, 25, 30, 35 ans, dans le hockey junior, t'es intimidé. T'es arrivé au camp d'entraînement, puis le coach adverse, il a envoyé un goon sur toi juste pour voir si t'avais du gars un peu.
Mais ça, là, c'est comme quand on est dans la cour d'école. On a tous vécu ça comme petit cul, là. Tu sais, t'as des bullies tout le temps, là. T'as des gros toughs, là, qui t'intimident dans la cour puis qui t'écœurent. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses écœurer, puis tu fais semblant de rien, puis tu acceptes une bine ou deux, puis tu rentres dans l'école en chignant puis en saignant du nez de temps en temps. Ou ben non, si tu dis, moi, me battre, je vais manger une volée, mais je vais sauver mon honneur. C'est un peu ça, là.
C'est pas un peu, c'est ça.
Là, t'es en commotion, là, l'honneur.
C'est ça, mais...
Non, non, mais c'est pas une bonne idée nécessairement, mais on se met dans la seconde où ça se déclenche. Ben, c'est ce qu'il vient de dire qui se passe.
C'est comme dans la cour d'école. C'est exactement ce qu'on a tous vécu.
Ben, c'est ça, mon point.
Avec les boulis de l'école au secondaire.
Parfait. Je fais une mise en situation.
Quoi?
Hier, Ovechkin, il donne un coup de poing.
Oui.
Puis le jeune, il tombe mal, sa patinoire, puis il meurt.
Non, mais là, t'es
non, 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 je te pose une question. Eric, comme si t'étais jamais allé à l'extrême depuis que tu fais de la radio.
Non.
Je te pose une question.
Moi, je t'ai modéré dans le comme toi. Là.
Écoute-moi, là, je t'ai dit, je te fais une mise en situation.
Oui, oui, non, non, je...
J'écoute vos arguments. Vous dites, ouais, le jeune, il voulait se prouver, Dan. Parfait. Ovechkin, il donne une droite, puis Zvechnikov, quand il tombe sur la glace, au lieu que son casque le protège, il meurt. Aujourd'hui, vous dites quoi?
Ben, on dit que Ovechkin, faut qu'il soit poursuivi devant les tribunaux.
Pas moi.
Pour tentative
moi, dis...
de meurtre.
Non, non, non.
Ben,
ben
écoute.
Non, c'est le même coup de poing. C'est pour le coup de poing, pas
les tribunaux. Non, ouais. Mais le jeune, parle-moi du jeune. Tu reviendras avec ta poursuite. Après, là, le jeune, lui. C'est-tu correct? C'est-tu battu pour se prouver? Puis ça a-tu l'allure?
C'était une idée. C'était il y a eu une bulle au cerveau, puis malheureusement, il en est mort.
Mais même s'il n'est pas mort, moi, je pense qu'il faudrait avoir le même discours. Il y a une bulle au cerveau, puis il n'aura pas dû se battre.
C'est sûr, les gens nous écrivent.
Non, je comprends.
Les gens nous écrivent, là, ils voulaient bêtement se prouver. C'est le métier qui rentre, il manque d'expérience. Le jeune, c'est vrai, il a cherché Ovechkin. Quand tu regardes les quelques secondes avant, il voulait se battre, il l'écœurait, il faisait tout pour manger une volée, là.
C'est même pas un agitateur. Tu sais, des fois, tu dis, dans son rôle, lui, il est là pour les échecs. Moi, mettons. Lui, c'est un gars hyper talentueux.
Ouais. Oui, mais Dan, il a initié le combat. C'est pas Ovechkin qui a jeté les gants et qui a commencé à fesser dessus, là.
OK, je te tourne ça de bord. Ovechkin aurait-tu pu dire au kid, arrête ça, sérieux, là.
Ben oui, il aurait
pu. Je vais te donner une volée.
Il aurait pu. Maintenant, le fait qu'il l'ait pas fait, je pense pas qu'on peut le blâmer. L'autre, il l'a agressé. Ovechkin a décidé de se défendre puis de répondre à l'appel de bataille. Je trouve que c'est pas en tout cas ce que j'ai vu là, peut-être que j'ai pas vu ce qui s'est passé 5 minutes avant parce que cette affaire-là, des fois ça traîne puis on voit pas tout.
Oui, c'est ça, il y a une accumulation, ouais.
Mais ce qu'on a vu à TV là, en basé sur ce que moi j'ai vu, je considère que le kid, il est responsable parce qu'il a écœuré Ovechkin, puis c'est lui qui a parti le combat. Puis quand tu inities un combat, tu peux pas te plaindre après parce que tu manges une
surtout
volée.
Que tu sais tout ce que tu dis Dan, il y a plein de bon sens, mais il reste que là on est dans la Ligue nationale où tout le monde est égal. C'est pas son père Ovechkin là.
Non.
Comprends-tu, c'est un adversaire à part égal. Ils ont pas le même poids, ils ont pas la même expérience, ils ont pas la même force, c'est tout vrai. Mais ils sont quand même égaux.
Ah ouais.
Si un dit oui puis l'autre dit oui, ben tout le monde a dit oui, tu sais.
Enfin, ben ça va être garde là, ça va coûter cher, il risque de pas revenir de
ben, la conclusion est pas le fun là.
Non.
C'est sûr que c'est zéro pareil.
Puis, je comprends que le jeune, imagine si ça avait été le contraire, si le jeune, il avait juste tenu tête, ou même, il aurait pu en sacrer une à Ovechkin, puis qu'Ovechkin tombe à terre. Là,
ben c'est fois, la mise
sur patin. Des fois, t'as de l'instabilité, puis le gars tombe, même s'il est plus fort que toi.
Oui.
Imagines-tu comment ce gars-là se sentirait aujourd'hui, dire, hey, Ovechkin, mon idole de jeunesse, je l'ai envoyé sa patinoire. Tu sais, lui, c'était ça, là, son rêve. Là.
Je trouverais pas ça plus hot.
Non, mais c'est le pourquoi qu'il s'est engagé dans ça. C'était pas pour perdre. C'est en se disant, c'est peut-être moi qui vais lui donner une leçon.
Mais le prochain match, je peux vous dire que, d'après moi, ça sera pas beau. J'ai déjà hâte de voir ça jeudi soir, moi, là. J'ai l'impression que ça va brasser pas à peu près le match 4. Surtout qu'il est important, parce que là, c'est 2-1. Ils veulent pas retomber égal, là, Washington. Fait que ça va être toute une game. Mais ce soir aussi, il va y avoir des games qui sont pas piqués des verres. Il y en a deux où on pourrait avoir les deux premières équipes qui se font sortir des séries.
Ouais.
Pittsburgh et Tampa Bay font face à l'élimination dans quelques heures, Dan.
C'est 3-0. C'est arrivé 4 fois dans l'histoire qu'une équipe est revenue 0-3 pour gagner une série 4-7 dans la Ligue nationale. C'est arrivé en 1942, en 1975, en 2010 et en 2014. La dernière fois, en 2014, les Kings, qui sont revenus 0-3 contre les Sharks, ont par la suite gagné la Coupe Stanley.
Fait que, ouais, mais là, attends une minute, là. C'est arrivé une fois, ça... On est loin. Moi, c'est drôle, j'ai l'impression. C'est
vrai, je te demande pas d'être d'accord. Non, je viens de te donner des faits. C'est des statistiques.
Puis il vient de te dire à quel point c'est rare.
J'ai pas dit si une équipe revient là-dedans, elle va gagner comme ça.
Ouais.
Mais les deux équipes, le problème que j'ai, c'est qu'ils ont pas. C'est pas comme si ça s'est fini en prolongation, puis ils ont été malchanceux, là. J'ai comme l'impression que leur morale est pas là. On a affaire à deux équipes dépressives. tu comprends ce que je veux dire? L'âme, ils ont pas d'âme.
Il y a eu des matchs en prolongation entre Pittsburgh et les Islanders.
Mais tu sais, écoute, un gars comme Sidney Crosby...
Il n'y a pas de point.
Qui est probablement le meilleur joueur qu'on a connu notre vivant depuis Wayne Gretzky, il est à zéro. C'est-tu normal après 3 games? Il y a quelque chose qui me dépasse là-dedans. Fait que, mais pour ce qui est du match Tampa Bay, c'est tellement peu probable que Tampa Bay revienne de l'arrière que Dan il a décidé de lancer un défi.
Ouais, je me suis lancé un défi à moi-même hier dans l'avant-match. Et voici le scénario, Eric.
C'est quoi?
Si... Tampa Bay gagne les 4 prochains matchs et élimine les Blue Jackets en 7 matchs. C'est la seule possibilité qu'ils ont. Ils perdent 3-0.
Ah oui.
Je me suis engagé cet été à marcher entre le FM 93 et le village de Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage dans l'Aude-Binière.
Ça, quand tu as fait cette promesse-là, tu savais pas c'était où Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage.
Non, oui, je
tu
savais.
Pensais que c'était un quartier de Québec.
Mais non.
Tu pensais que c'était en Saint-Roch, Saint-Sacrement ou en Saint-Roch, puis Limoilou.
Non, non, Saint-Ville à pied.
Mais non, c'est le village de Yannigourde.
Non, je te niaise.
C'est le village de Yannigourde. Yannigourde, il vient de ce village-là. C'est la fierté. Tu comprends-tu que là-bas, Yannigourde, c'est le Jean Béliveau des temps modernes.
C'est quoi, 40 km à peu près de Québec?
Ouais. Il y a un auditeur hier qui m'a dit.
36.
C'est 36 km, ça va te prendre 9h30 à pied. Non, non, il l'a fait avec le Google Maps.
Ça va
Maps,
prendre là. Moins de temps que ça. Là, tu marches plus vite que ça, mon Dan. Le tingant en forme, toi, là. Là.
Oui, ça, c'est vrai que je suis en pleine forme.
T'as une shape d'athlète.
Mais sérieusement... Non, j'ai pas dit ça.
Mais moi, je l'ai dit.
Mais sérieusement, je vais le faire pour le vrai, ça arrive. Là. Pensez pas que je vais me sauver.
Non.
Mais là, tu vas passer par où? Ça veut dire que tu passes...
Par le pont de Québec, parce qu'on peut pas marcher sur le pont
Pierre Lafond. Non, mais tu peux marcher sur le bord du fleuve. Après ça, tu vas pouvoir prendre le pont de Québec. Après ça, tu vas prendre les petites rues.
Bon, ben là, le chemin, après, c'est pas grave. Faut juste traverser, là. Faut juste pas que tu traverses en canot.
Non, mais je vais te faire ton tracé.
Non, c'est beau, je vais être correct.
Non, mais parce que moi, je l'ai fait quand je cours, souvent, ça m'arrive. Je l'ai fait en course. Mais non, mais moi, pourquoi tu veux pas profiter de mon expertise, là?
J'en reviens pas. Il t'offre ça, là.
Gratuitement. De quoi?
Il offre jamais rien gratuitement.
En tant que coureur, je connais les sentiers où tu vas pouvoir marcher
dans la rue, là.
Mais non, tu marches pas dans la rue. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as la chance d'avoir.
Pas dans la rue, mais je vais marcher sur le trottoir.
Il y a des chances d'avoir. T'as la chance d'avoir des belles pistes qui longent le fleuve. Après ça, t'as une passerelle pour marcher pour les piétons. Après ça, tu vas arriver de l'autre bord. Puis
lui, c'est pas une épreuve. Tu lui donnes le goût de le faire.
Il y a pas de bord de fleuve. Je pars du FM 93, je m'en vais sur le pont. Je n'irai pas sur la promenade Samuel de Champlain, là.
Ben oui, tu vas aller.
Éric, toi, tu restes dans le Vieux-Québec. C'est parfait pour toi pour se rendre au pont.
À partir d'ici, tu descends la côte.
Je descends pas. Tu descends la côte. Je vais prendre Saint-Louis puis je vais arriver direct au pont.
Tu veux pas marcher sur la promenade. OK.
Ben voyons, je vais descendre pour remonter. Ça va être super. Ça va me prendre 12 heures, finalement. Super. Je vais me fier à son expertise de coureur. Arrêtez ça, là.
Mais là, sauf que Dan, je trouve que tu te lances pas un gros défi. Je vais te dire bien franchement, là.
Toi, t'aurais voulu qu'ils disent Montréal.
Ben, c'est pas ça.
20 heures.
Non. 3-0 en faveur des Blue Jackets. Les probabilités que t'aimes pas Beer viennent sont à peu près nulles.
C'est la meilleure équipe de la Ligue. Là, j'ai pas pris des pieds.
Ils ont joué comme des pieds depuis 3 games.
Ah, mais là, ils ont le chasse forcé.
Puis, je trouve qu'il n'y a pas. Les probabilités que tu te ramasses à marcher le 36 ou 38 km, d'après moi, c'est peu élevé. Là.
Ben, on sait pas. Là, regarde, pour l'instant, c'est ça.
Puis là, j'ai-tu compris que Victor Hedman ne joue pas à soir?
Oui, Victor Hedman est blessé, oui.
Ça, c'est leur meilleur défenseur en plus.
Ouais.
Je te dis, ça va bien, puis t'aimes pas bien, hein?
Ça sert à quoi, toi, Eric, un vrai défi de cette nature-là?
Ben, marcher jusqu'à t'aimes pas bien. Là, tu m'aurais dit, OK, là, ça parle.
Il manquerait de vacances.
3600
km. Ben oui, j'aurais pas assez de vacances, ça me prendrait 6 mois.
Bon, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que Dan, il a spoté un truc à poutine à Lotbinière? On peut-tu embarquer avec Dan? Tu vois, le monde, il veut être sympa. Il y a des... Or ça, là, c'est pas fin, là, Dan. Il y a quelqu'un qui me dit, puis Eric, comment tu trouves ça, regarder du bon hockey? En voulant dire, moi, j'étais habitué à regarder juste le Canadien. Là, je peux pas y regarder, parce que je regarde des bonnes équipes.
Qu'est-ce que tu réponds à ce monsieur-là?
Ouais.
Il y en a un autre qui écrit... Dan, si tu es assez narcisse, on organise une ronde de golf.
Non, je vais pas jouer au golf, je vais marcher, je vais être brûlé à la fin. Ça prend le casse-croûte ouvert, c'est tout. Là. Hey, tu vois ça, Marc? Des bouteilles d'eau, des oranges puis des bartendes pendant 9 heures.
C'est un
quand je vais arriver là-bas, d'après moi, je fais une offre d'achat sur le casse-croûte.
Oui, direct.
Mais là, t'as une minute.
Il y a deux mains dedans.
Mais tu reviens comment? Tu vas voir, tu remarches pour revenir. Tu peux
non,
pas.
Non,
un coke pas. Dans friteuse.
Tout va être arrangé.
Un tableau va venir te chercher.
Tu sais que... Non, j'ai pas demandé à ma blonde de venir me chercher. J'ai 48 ans. Je suis capable de me débrouiller, là.
Non, mais moi,
je suis pas comme toi. Je suis pas indépendant affectif comme toi, là. Eric, écoute bien, là. Le deal est fait.
Oui.
La mère de Yannick Gourde m'a écrit hier.
OK.
Elle dit, je suis prêt à marcher avec toi. Parce qu'elle, tu comprends-tu que si elle marche avec moi, ça sous-entend que son gars sont venus puis ils ont gagné en 7.
Ben oui.
Elle dit, là, je vais être contente pas à peu près.
Oh, c'est comme monter les marches de l'oratoire à genoux, ça, là.
Puis Yannick Gourde, là, je ferai pas ça dans 2 semaines pendant qu'il va jouer sa deuxième ronde, là.
Non.
Moi, je veux qu'il soit là. Il vient de là.
Exact.
Fait que lui, dans le fond, c'est quoi le principe? C'est que je m'en vais m'excuser à Saint-Narcisse.
Pour avoir insulté ta
Pour avoir douté
d'eux
autres.
Oui.
Fait que lui, il va être là, il va m'accueillir, puis je vais dire, je m'excuse.
C'est OK. Mais ça serait le fun. Tu pourrais marcher avec des auditeurs, c'est vrai. Puis tous ceux qui ont...
On pourrait aller sur la promenade, remonter après. On pourrait rajouter ça de 10-12 km.
Oui. Mais Dan, si t'es d'accord, moi, là, je te l'offre
bénévolement. Non, je suis pas d'accord. Je te l'ai dit, non.
Je vais... Non, mais attends.
Je veux rien savoir de toi.
Je peux même te prêter Mia, si tu veux.
Non, rien. Tout est beau.
Je peux t'acheter un harnais.
Non, tout est parfait.
Un peu.
Tout est parfait.
Ça va être plus facile pour toi.
Éric, course est pleine. Moi, je vais marcher vers Saint-Narcisse. Tout le monde va être heureux.
Puis, si tu veux aller encore plus vite...
Je veux pas aller plus vite.
J'ai le secret miracle.
Je veux pas de secret.
Je m'en fous. Moi, je vais te le dire pareil. Moi, je peux mettre Mia avec son harnais sur moi.
Oui.
Je vais me mettre en arrière de toi. Je sais que t'as
peur. Là, je vais courir.
Fait que là, je vais te mettre en avant, puis je vais courir après toi.
Ça, c'est brillant.
D'après moi, c'est pas 9 heures, ça va être 9 minutes.
Exactement.
Ça, c'est une bonne stratégie.
turbo à mort. Man, Dieu, vous me tuez,
pour accélérer le rythme, là, d'après moi, ça serait bien
ça, c'est vrai.
Bon, fait que pour revenir à l'auteur là, du courriel, du texto de Marc.
Ouais, qu'est-ce que tu y répondrais? Non, c'est un texto à propos.
Je vous dirais que je trouve pas que c'est du bon hockey parce que le Canadien n'est pas là.
Je
trouve
que pas dit ça.
C'est du hockey des séries. Et si le Canadien faisait des séries, je pense qu'il jouerait aussi bien que les Blue Jackets de Columbus. D'ailleurs, je suis de ceux qui sont convaincus que si le Canadien avait réussi à se classer, donc on aurait pris la place de Columbus, la 16e place disponible, ben je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Canadien mènerait sa série 3-0 contre Tampa Bay.
Hein?
OK, arrête de faire jouer ça, là. C'est pertinent ce que je dis.
Mais tu te lises un commentaire que j'ai eu hier quand t'as dit la même chose dans l'émission?
C'est pas nécessaire.
Je retourne à ta peau. C'est-tu par texto, par courriel, par Messenger? Messenger, OK. Va pas en pause tout de suite. C'est très important.
Bon, OK, on va en pause.
Non! Parce que hier, t'as dit ça dans l'émission aussi.
Mais oui, mais je suis convaincu, puis ça m'écœure, parce qu'à soir, ils vont se faire éliminer. Puis imaginez, là, on serait le 4e match à soir au Centre Bell. Le Canadien éliminerait le Lightning de Tampa Bay. Le Québec, le au complet, absolu. Serait en fête. Toutes les bases sportives seraient débordées. Ben oui. Puis là, on serait... Il y aurait une espèce d'euphorie.
Ben, pas une espèce.
Il y aurait un vent de Coupe Stanley qui soufflerait sur le Québec tout entier. Puis là, à la place, on va regarder Tampa Bay se faire sortir par une équipe de Columbus. C'est où ça, Columbus? Ça existe-tu ou c'est un faux nom?
Ben, ils sont en série, par exemple. Faut que tu fasses attention pour pas te moquer des gens qui sont en série. Toi, avec ta grande métropole, tu l'es pas, là.
Columbus?
Ouais.
Y a-t-il une équipe de baseball à Columbus?
Non.
Y a-t-il une équipe de football à Columbus?
Non.
Y a-t-il une équipe de basketball à Columbus? Non.
OK, on recommence. Y a-t-il une équipe de baseball à Montréal?
Non.
Y a-t-il une équipe de basketball à Montréal?
Non.
Y a-t-il une équipe de football?
Oui,
non.
Dan Witt.
Mais non, ils perdent tout le temps. OK.
La Ligue canadienne.
Salut, Dan. Dis-moi, Éric Duhaime fait-il exprès pour dire autant de choses qui n'ont pas de sens concernant le hockey chaque jour? Je me dis que ça se peut pas vraiment qu'il pense que Montréal mènerait 3-0 dans la série contre Tampa. Incroyable comme call. Bon, merci, je veux pas te déranger. Bonne journée.
Bon.
J'ai reçu ça hier quand t'as dit Montréal sera en avance 3-0 contre Tampa.
Là, je veux pas te donner la réplique, mais il y a moins d'une minute, on recevait au 25-226 200% d'accord avec toi, Éric. Là, c'est vrai qu'on va en pas.
Le retour d'Éric Duhaime, FM 93.